Est-ce que vous roulez déjà en véhicule électrique? Eh bien, si ce n'est pas encore le cas, essayez la conduite de ce type de véhicule. Vous verrez, les sensations n'ont rien à voir avec les voitures thermiques. Pas de vibrations, pas de bruit, pas d'embrayage. Que des avantages en quelque sorte, mais l'autonomie dans tout ça, me direz-vous? Eh bien, c'est justement la question qui freine bon nombre de conducteurs et c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui.
Bienvenue à tous, vous écoutez notre podcast La voiture du futur. Quatre poids lourds de l'industrie automobile acceptent de dévoiler leur vision de la voiture de demain, celle qui sortira des usines dans 5 ans. À chaque épisode, pour challenger notre expert automobile, un expert transversal ouvrira le sujet et la réflexion. Embarqué sur le siège passager, Adèle Lassouli vous emmène à la rencontre de ceux qui conçoivent nos voitures, objets de liberté, vecteurs de rêve. 4 épisodes, 8 experts pour anticiper le futur et assembler la voiture de demain. C'est parti!
Bonjour à tous, je m'appelle Adèle Lassouli et je suis l'hôte de ce podcast. Autour de la table, Stéphane Desmet, vous êtes B2B, directeur chez Stellantis. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on rappelle que Stellantis, c'est le groupe qui est issu de la fusion entre PSA et Chrysler Fiat, c'est bien ça?
C'est bien ça, le groupe XFCA, en fait. Pour ceux qui aiment bien l'automobile, Stellantis, ça représente les marques Peugeot, Citroën, DS, Opel, et puis Fiat, Alfa, Jeep, et encore quelques autres des marques américaines. En totalité, elles représentent 14 marques d'automobiles.
Voilà qui est précis. Nicolas Paris, vous êtes de l'autre côté de la table. Vous êtes expert et consultant en électrification et énergie renouvelable. Bonjour.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir autour de cette table et je vous souhaite la bienvenue. Alors, avant d'aller plus loin, on souhaite faire votre connaissance à travers cette autobiographie. Stéphane, on commence avec vous. Quelle a été votre toute première voiture?
En fait, c'était une toute petite japonaise que j'avais héritée de ma mère quand j'étais jeune, j'étais étudiant. Petite voiture, mais ça me suffisait largement pour me déplacer de point A à point B.
Et avec quel véhicule vous roulez aujourd'hui?
Actuellement, je roule en Peugeot 5008, un 7 places, très spacieux. Ça m'aide pour les vacances et surtout pour déplacer les amis de mes enfants à l'hockey ou au football. Très agréable.
Alors, je suis sûr que vous avez une voiture de vos rêves.
J'en ai une, en effet. Il s'agit d'un concept car, le Peugeot Inception Concept. Rien qu'en regardant le volant de cette voiture-là, on pense à un PlayStation. Il y a plein d'intelligence artificielle dans la voiture et le design, bon, me donne des frissons.
Nicolas, à votre tour de vous y coller, quelle a été votre toute première voiture?
Une Peugeot 206, aussi, quand j'étais étudiant.
Voilà qui va faire plaisir à Stéphane. Et votre voiture aujourd'hui?
C'est Audi Q4, une voiture donc 100% électrique. Et je suis passé à la voiture électrique il y a déjà 5 ans.
Une voiture de rêve à partager avec nous?
Alors, c'est une voiture qui n'existe pas encore tout à fait, en tout cas d'un point de vue software, mais Tesla avec le full self-drive offre beaucoup de bonnes perspectives qui sont très intéressantes pour pouvoir en fait être au volant d'une voiture sans devoir le toucher et sans devoir conduire. Et donc je suis très curieux de savoir si cette promesse va se réaliser un jour.
Dans cet épisode, on va se concentrer sur l'autonomie de nos véhicules électriques. Recharge lente ou rapide, quelles capacités, quelles évolutions attendre? C'est parti. Question simple d'abord, question de contexte peut-être pour vous Stéphane. Quelles sont aujourd'hui les solutions de recharge qui sont existantes et combien de temps ça prend?
Pour répondre à la première question, il y a trois manières pour charger la batterie d'un véhicule électrique. Il y a tout d'abord la prise domestique. Également le chargeur, la borne de recharge ou le wall box. Et finalement, il y a le fast charger, hein, les chargeurs rapides. Bon, en ce qui concerne les prises domestiques, pour un véhicule électrique, ça vous prendra rapidement 15 à 25 heures pour la charger à 100%. Pas vraiment la solution idéale pour le chargement au quotidien. Pour un chargement quotidien, nous préconisons de charger à une borne de recharge. Là, ça prendra plus ou moins 5 heures à 7 heures, dépendant le type de votre wallbox. Et si jamais vous avez besoin en peu de temps, beaucoup d'autonomie, ben à ce moment-là, on a les chargeurs rapides. En 20 minutes de temps, ça vous permettra de remplir 80% de la capacité de votre batterie.
Et justement, Stéphane, c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'en rechargeant à 100% sa batterie, à chaque fois, est-ce qu'on l'use plus vite? Est-ce qu'il y a des moyens, finalement, de ne pas altérer la capacité de sa batterie?
Oui, tout d'abord, beaucoup de gens pensent que le fast charger ou la charge rapide endommage les batteries. Bon, la réponse est négative. Elle n'endommage pas directement les batteries, bien que on met le package des cellules sous pression. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a intégré des sortes de sécurité. On peut charger la voiture rapidement jusqu'à un niveau de 80% de sa capacité et pas plus. D'accord ? Donc vous pouvez, tant que vous voulez, en toute sécurité, faire des recherches rapides sans aucun souci.
Et il y a des conseils, des petites choses que les utilisateurs peuvent faire au quotidien pour améliorer les capacités de leur batterie?
Oui, tout à fait. Il y a des best practices. C'est un peu à comparer par rapport au smartphone, au GSM. Ne videz pas complètement la batterie. De l'autre côté, essayez également d'éviter une charge au-delà des 90% de la capacité de la batterie. Et bien évidemment, il est toujours possible de charger complètement, quand vous en avez besoin, pour des trajets longs, de charger à 100% la batterie. C'est pas un problème pour soi. Mais vous n'avez pas besoin de faire 800 km tous les jours non plus. De l'autre côté, un autre best practice, éviter les températures extrêmes. Quand il fait froid le matin, mieux vaut utiliser l'application sur votre smartphone qui permet le préchauffage de vos batteries.
Mmh. Voilà, en tout cas, des conseils sur mesure que tous les automobilistes ou que tous les possesseurs de véhicules électriques ne connaissent pas forcément, donc c'est très intéressant. J'ai encore une question pour vous, Stéphane, avant de me tourner vers Nicolas Paris. Est-ce qu'il existe aujourd'hui sur le marché différentes sortes de batteries ou est-ce que toutes les batteries se valent?
Non, en fait, au sein du groupe Stellantis, on a développé pour les 14 marques du groupe 4 plateformes de batteries. 4 plateformes qui seront disponibles pour chacun des clients des 14 marques dans leurs différents segments. Donc, on a une plateforme small, medium, large et une plateforme pour les SUV et les petits trucks.
On va beaucoup parler tout à l'heure justement de l'autonomie et de cet argument aujourd'hui sur le marché. Nicolas, je me tourne vers vous, vers notre expert. On dit souvent qu'un véhicule électrique accélère très rapidement, qu'il délivre toujours la totalité du couple, mais que finalement, à grande vitesse, c'est plutôt le véhicule thermique qui a l'avantage. Est-ce qu'on peut, et notamment vous, est-ce que vous pouvez en tant qu'ingénieur faire un comparatif tant en termes de performance qu'en termes de puissance entre ces deux types de véhicules, le véhicule thermique et le véhicule électrique?
C'est clair que c'est une expérience de conduite qui est fondamentalement différente. Je pense que même sans être ingénieur, mais une question qui est très fréquente une fois qu'une personne monte à bord d'un véhicule électrique la première fois, c'est est-ce que la voiture est allumée? Parce qu'il n'y a pas de sensation de bruit, de vibration. Et donc, il faut en fait simplement appuyer sur la pédale pour qu'elle avance. Il n'y a pas de moteur qui vrombit. Alors, au niveau des véhicules thermiques, on a un rendement qui est autour de 35% quand les conditions sont optimales. Mais ce rendement peut chuter de l'ordre de 15% lorsqu'on est à très basse vitesse. Alors que pour un véhicule électrique, on est à 90% plus ou moins sur toute la plage de vitesse. Et donc dès lors, on n'a pas cet effet de surconsommation à basse vitesse, ce qui fait par exemple dans un embouteillage qu'une voiture électrique va quasiment rien consommer, à la différence évidemment d'une voiture thermique.
Ouais, donc on comprend à travers ce que vous nous dites que finalement le rendement d'un véhicule électrique est beaucoup plus élevé que le rendement d'un véhicule thermique. Est-ce que malgré tout il reste encore aujourd'hui une marge de progression, une marge d'évolution? Est-ce qu'on est aujourd'hui vraiment tout au début encore de l'histoire du véhicule électrique?
Alors, tant au niveau des batteries qu'au niveau de l'aérodynamique, je pense que les batteries, c'est une technologie lithium-ion qui a une quarantaine d'années et qui a vraiment explosé autour des 10 dernières années avec une chute de plus de 90% du prix. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a encore différentes chimies qui sont à l'étude. Mais là, on voit que c'est pas encore stable. On voit qu'on est un peu dans les années 90 de l'ordinateur, c'est-à-dire qu'il y a encore des évolutions qui sont très rapides d'une année à l'autre. Et il y aura encore, à mon avis, beaucoup de changements qui vont arriver dans les 10 prochaines années. Par rapport à l'aérodynamique, là, il y a aussi du progrès à faire dans la mesure où on arrive à avoir des véhicules qui consomment de moins en moins. Et finalement, pour une même batterie, si on consomme deux fois moins, ben on peut aller deux fois plus loin.
Alors, on va parler un petit peu du maillage aujourd'hui en Belgique, puisque très récemment, le gouvernement wallon a mis sur pied une cellule qui est chargée d'un déploiement beaucoup plus rapide de ces bornes de recharge sur le réseau wallon. On sait qu'il y a une grosse différence entre la Flandre et la Wallonie, à peu près 28 000 bornes en Flandre pour 5 000 seulement en Wallonie. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ça, Nicolas, que les autorités, notamment les autorités wallonnes, prennent le taureau par les cornes?
C'est une bonne nouvelle que le changement soit annoncé. Alors ce sera encore une meilleure nouvelle que le changement soit vu sur le terrain. La Flandre est plus densément peuplée. Il y a dès lors besoin de plus de recharge publique puisqu'il y a plus de personnes qui vivent en appartement. Au niveau de l'habitat wallon, il y a davantage de personnes qui vivent dans des maisons et qui peuvent avoir des bornes qui sont chez eux. Néanmoins, une problématique qui est commune partout, c'est l'accès non seulement au terrain pour placer une borne, mais surtout à la puissance électrique. Quand on n'a pas de garage chez soi, on cherche à passer le moins de temps possible pour se charger en dehors. Et donc, on a besoin de chargeurs qui sont rapides. Ces chargeurs rapides, pour vous donner une équivalence, on parle de 150 kW, c'est 15 maisons qui vont alimenter une seule voiture en même temps. Et c'est comme ça qu'on arrive à une recharge de 80% en 20 minutes. Mais pour avoir cette puissance disponible, il faut que le gestionnaire du réseau mette la puissance à disposition, qu'il y ait des permis, qu'il y ait potentiellement des travaux, des renforcements du réseau qui le permettent. Et ça, c'est une problématique qui est transversale. Ce n'est pas uniquement gouvernemental, c'est le gouvernement et le gestionnaire du réseau qui doivent se mettre autour de la table et d'accord pour que quand une personne souhaite installer une borne rapide, ce soit techniquement possible.
Permettez-moi quand même de nuancer et de mettre ça dans son contexte. Actuellement, on constate quand même que les Engie et les Fastnet sont en train de bien investir des bornes rapides au bord des grands axes et des autoroutes, ce qui permet à nos utilisateurs de rapidement charger leur batterie. Il faut qu'une minute de chargement pour avoir 10 km en plus. Donc, une petite pause café vous suffit de gagner 150 km en autonomie.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un chemin entre le tout à l'électrique et le plus de thermique du tout, Stéphane?
Tout à fait. Il y a des alternatives. Je m'imagine qu'il n'y a pas tout le monde qui a besoin de rouler plus de 60 km par jour. Des études démontrent que le Belge moyen, il lui suffit 40 km par jour. Ils font des trajets qui ne sont pas plus longs que ça. Donc, si on dépasse cette tranche d'autonomie, il vous suffit d'acheter un plug-in hybride. Il peut suffire. Il y a moyen pour un utilisateur, avec une plug-in hybride, de rouler à 100% électrique sans avoir besoin aucune goutte de carburant. Et c'est un peu à voir comme une bouée de secours quand la batterie est entièrement blatte.
Alors, pour la Wallonie, on a expliqué la faible densité de population par rapport à la Flandre. Il y a aussi pour les urbains, pour les gens qui habitent dans des villes comme Bruxelles. Est-ce que finalement le véhicule électrique est particulièrement adapté au tissu urbain ou c'est pas véritablement la solution? Est-ce qu'il faut aller vers quelque chose de plus partagé?
Oui, bon, il y a ça comme solution. Il y a le car sharing qui devient de plus en plus populaire, surtout parmi les jeunes. Donc oui, ça c'est une des solutions. De l'autre côté, bon, il y a pas tout le monde qui habite en ville qui doit avoir absolument une borne de recharge personnalisée. Là aussi, on a des solutions. Il y a des applications qui permettent d'accéder à un réseau de 350 000 bornes au niveau européen et de voir où ils se trouvent. Et en plus, l'application, elle vous y amène de façon la plus efficace.
Alors, l'un des mythes les plus entendus à propos des véhicules électriques, c'est en fait une croyance qui se répercute sur les critères d'achat. C'est la question de l'autonomie qui est devenue aujourd'hui un véritable critère marketing avec des conducteurs qui font la chasse à l'autonomie la plus longue. Stéphane, est-ce qu'une capacité de 800 km, comme on peut le voir ou l'entendre ici et là, sans devoir recharger, c'est quelque chose qui est possible et c'est quelque chose qui est véritablement nécessaire, selon vous?
La question est surtout quand et avec quelle fréquence on a besoin de cette autonomie de 800 km. Je ne vois pas beaucoup d'utilisateurs rouler jour après jour 800 km. Les études démontrent que le Belge moyen roule 40 km par jour. Ben pourquoi trimballer cette masse de batterie qui vous permet à rouler 800 km tous les jours? ça coûte beaucoup d'argent. En plus, il vous faut pour chaque autonomie complémentaire, il faut des cellules de batterie complémentaires. C'est un poids complémentaire, un coût complémentaire. Et forcément, ça se traduit dans quelque chose de plus énergivore.
Est-ce qu'on peut peut-être un instant s'arrêter et se mettre à la place d'une personne, d'un particulier qui cherche peut-être à faire l'acquisition d'un véhicule électrique? L'argument massue, l'argument phare, ne reste-t-il pas finalement le coût de la recharge? Recharger son véhicule électrique coûte encore aujourd'hui beaucoup moins cher que de faire le plein de diesel ou d'essence.
Ça va dépendre de ses habitudes en fait, puisque si on a des panneaux photovoltaïques sur le toit et qu'on a une borne chez soi, on va pouvoir bénéficier d'un coût de recharge qui est nettement moins cher, de l'ordre de 5 fois moins cher qu'un véhicule thermique. Si jamais on est lié à uniquement des bornes rapides sur autoroute qui donnent un excellent service mais qui viennent avec un certain coût, en fait on peut être plus cher avec une voiture électrique qu'avec un véhicule thermique. Donc je pense que la réponse n'est pas noire ou blanche, elle va dépendre des habitudes et je pense que l'adoption d'un véhicule électrique vient avec l'adoption finalement de ces pratiques de d'abord charger là où c'est le moins cher. Pour un employeur par exemple, le conseil évident est de favoriser la recharge au bureau, à la maison ensuite, sur les bornes lentes, publiques en troisième choix, et alors en dernier choix, vraiment quand c'est nécessaire, les bornes rapides sur autoroute qui quelque part viennent apporter normalement des compléments et donc sont chers mais comptent finalement assez peu dans le pourcentage global de recharge.
Messieurs, merci parce que vous nous avez apporté déjà pas mal d'éléments. Moi, je vous invite maintenant à faire un saut dans le futur. C'est la troisième et dernière partie de ce podcast. Quel avenir pour le véhicule électrique dont on dit qu'il y en aura à peu près 2 millions en Belgique d'ici 2030. Pour donner un ordre de grandeur, ça fait un véhicule sur 3. Alors, est-ce que l'électrification de la flotte va suffire à atteindre les objectifs neutralité carbone à l'horizon 2050? Ça, c'est la grande question.
Alors ça ne suffira pas, mais c'est une brique qui est essentielle au-delà de l'aspect mobilité. Pourquoi ? Parce que les batteries des voitures forment finalement un gigantesque réservoir d'électricité qui va être extrêmement utile pour les gestionnaires du réseau afin d'absorber la quantité grandissante d'énergie renouvelable qui va être produite. Et donc finalement, ce vers quoi on se dirige, c'est qu'on va avoir davantage d'électricité à des moments précis de la journée, comme par exemple à midi quand il y a beaucoup de soleil, et trop peu à d'autres moments, typiquement quand il va faire froid et qu'il y aura déjà le chauffage qui va consommer beaucoup. Et donc ce qui va se passer, c'est que les recharges vont devoir s'adapter à ce profil de production photovoltaïque et éolienne principalement, de manière à capter les électrons qui sont à la fois les moins carbonés, mais aussi les moins chers. Et donc il y aura finalement un incitant économique qui va être également aligné avec les objectifs écologiques.
Et là, finalement, on touche au fameux concept de véhicule to grid, qui est l'idée que le véhicule ou la batterie du véhicule électrique peut être utilisée à double flux. C'est bien ça, Stéphane?
C'est exactement ça. C'est certainement une bonne idée. Surtout, on s'imagine une voiture qui n'est pas utilisée. Ben, on se pose la question, pourquoi est-ce que la batterie, elle devrait être à 100% remplie? Mieux vaut la décharger et utiliser cette énergie à d'autres fins domestiques. Donc ça, c'est l'avantage, que ça soit bidirectionnel.
Mais on en est où par rapport à ça? C'est les balbutiements, ça commence tout doucement ou ça commence à se concrétiser?
Ça se concrétise effectivement. Actuellement, Stellantis a un projet en cours à Turin avec un parc d'automobiles de plus ou moins 700 voitures, un parking qui est relié au réseau et où les batteries de chacune des voitures sont chargées ou déchargées en fonction de leur planning du jour et pour ainsi essayer d'aplatir le niveau de les pics du réseau énergétique.
Alors, ces objectifs européens à l'horizon 2050 sont évidemment importants, ça donne le cadre général, mais chez vous, chez Stellantis, Stéphane, vous visez la neutralité carbone à votre échelle d'ici 2038. Vous faites comment ?
Il est clair que les créateurs et les ingénieurs, ils vont continuer à trouver et essayer de trouver des moyens pour rendre la voiture plus efficace et de raccourcir ces temps de recharge. C'est clair. Et je dois faire référence à ce beau concept car, hein, My Dream Car, le Peugeot Inception Concept. Ben, dans cette voiture-là, les créateurs, ils ont fait de sorte d'utiliser des matériaux très légers. Ils ont utilisé des sièges qui sont très fins et qui leur a permis à alléger la voiture considérablement pour ainsi gagner de l'énergie et donc créer une efficacité électrique complémentaire.
Ça, c'est un gros challenge. C'est le travail autour des matériaux, autour de la recyclabilité des matériaux, des batteries. Vous confirmez ça, Nicolas, c'est un enjeu majeur pour l'industrie automobile de demain?
Tout à fait majeur, et donc c'est un sujet de recherche qui est très intense et qui doit se décider maintenant, même si la plupart des usines de batteries sont aujourd'hui encore en construction ou en projet, donc c'est pas du tout une industrie qui est mature aujourd'hui, mais c'est maintenant qu'il faut choisir des designs, des chimies, des compositions de batteries qui prennent déjà en compte le potentiel de recyclabilité et le processus de recyclabilité, de manière à ce qu'on ne se retrouve pas en 2035 avec des batteries dont on ne sait pas quoi faire, et d'autre part des problèmes au niveau de pénurie de matériaux. Donc les matériaux de demain, ce sont les batteries qui sortent des usines aujourd'hui.
Messieurs, nous sommes déjà arrivés à destination en respectant les limitations de vitesse, en gardant suffisamment d'autonomie. Donc je vous dis merci. Stéphane De Smet, je rappelle que vous êtes B2B Director chez Stellantis. Nicolas Paris, vous êtes expert et consultant en électrification énergie renouvelable. Encore merci pour votre temps, pour votre éclairage, sans la moindre émission de CO2, je le précise. Chers auditeurs, je vous retrouve pour un prochain épisode. Et si vous avez aimé cette discussion, n'hésitez pas à partager ce format autour de vous et à vous y abonner. Merci à tous.